Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, l'évangile de ce dimanche nous rapporte comment les saintes femmes ont appris la résurrection de notre Seigneur au matin de Pâques. Notre Seigneur était ressuscité dans la nuit, sortant du tombeau sans en briser la porte, comme il était sorti du sein de la Vierge Marie à Noël sans porter atteinte à sa virginité. Désormais, sans le savoir, les soldats gardaient un tombeau vide. Au petit matin, un ange descendit du ciel et ouvrit la porte du tombeau pour montrer aux gardes que le corps de notre Seigneur n'y était plus. Les soldats, effrayés, s'enfuirent à Jérusalem, racontaient au prince des prêtres ce qu'ils avaient vu, et ceux-ci les payèrent pour qu'ils se taisent. Tandis qu'il ignorait délibérément ses ennemis, notre Seigneur avait tout fait pour eux, ça ne servait plus à rien, donc c'était terminé. Jésus se montra ressuscité à ses amis. D'abord à sa sainte mère, puis aux saintes femmes qui étaient venues embaumer son corps pour les récompenser, puis aux apôtres, mangeant avec eux pour bien montrer la réalité de sa résurrection de son corps, et plus tard même à des centaines de personnes en Galilée. La résurrection de notre Seigneur est donc d'abord un fait historique, indubitable, tant les témoins abondent. Mais la résurrection de notre Seigneur est en même temps un objet de foi. Qu'on ait vu notre Seigneur mort puis ressuscité avec son vrai corps, c'est une chose, mais la manière même dont s'est produite la résurrection et ses propriétés essentielles, cela personne n'a pu le voir. Nous le savons uniquement parce que notre Seigneur l'a dit à ses apôtres qui nous l'ont transmis par l'Église. Et nous le croyons parce que notre Seigneur ne peut ni se tromper, ni nous tromper parce qu'il est Dieu. Voyons donc ce qui est de foi dans ce mystère de la résurrection du Fils de Dieu. Le catéchisme du Concile de Trente, dans son explication du credo, rappelle d'abord que contrairement aux autres personnes qui ont pu être ressuscitées miraculeusement par la prière d'un autre, d'un saint, notre Seigneur s'est ressuscité lui-même par sa propre puissance. Sa mort sur la croix avait séparé son corps de son âme, mais le corps et l'âme de notre Seigneur étaient toujours restés unis à la seconde personne de la Sainte Trinité. Et c'est cette personne divine qui les a réunis, qui a réuni le corps et l'âme de notre Seigneur au matin de Pâques. D'autre part, la résurrection de notre Seigneur est une résurrection parfaite. Contrairement aux autres personnes qui ont été ressuscitées par des saints et par Jésus lui-même, et qui ensuite ont dû mourir une seconde fois, notre Seigneur est ressuscité avec un corps de gloire qui ne peut plus mourir. Jésus-Christ ressuscité des morts ne meurt plus et la mort désormais n'aura plus d'empire sur lui, dit saint Paul. Mais arrêtons-nous quelques instants sur la triple victoire remportée par notre Seigneur. Victoire sur le péché, sur Satan et sur la mort. D'après la tradition chrétienne, Dieu et le genre humain ont trois ennemis, Satan, le péché et la mort. Les trois se tiennent. C'est Satan qui a fait pécher nos premiers parents et c'est ainsi que la mort est entrée dans le monde. Et bien sur la croix, notre Seigneur a vaincu pour toujours ces trois ennemis. D'abord la victoire sur le péché. Après la chute de nos premiers parents, le péché avait envahi le monde. L'univers gisait dans le paganisme, idolâtre et sensuel. Même le peuple juif qui avait reçu de Moïse le code de la vie morale constatait sa quasi-impuissance à le pratiquer. On peut appliquer aux hommes de l'Ancien Testament ce que saint Paul dit de notre incapacité à suivre la loi de Dieu avec nos propres forces humaines. « Je n'ai connu le péché que par la loi, dit-il, car je n'aurais pas connu la concupiscence si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». Je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis. Et le bon Dieu permettait cette situation, eh bien, pour faire aspirer son peuple et même toute l'humanité, tous ceux qui, les justes, même dans le paganisme, ceux qui restaient justes, malgré le paganisme, eh bien, pour faire aspirer toute l'humanité à la venue d'un sauveur. Il fallait que l'homme constate par lui-même son incapacité à faire le bien pour qu'il crie vers le ciel. Alors, quand les temps furent accomplis, la seconde personne de la Sainte Trinité s'est incarnée dans le sein de la Vierge Marie afin de nous délivrer du péché par sa mort sur la croix. En effet, par son obéissance à son Père jusqu'à la mort de la croix, notre Seigneur a offert à la Sainte Trinité un sacrifice d'un mérite infini qui lui plaît davantage que ne lui déplaisent et ne l'offensent tous les péchés de l'humanité, depuis le premier péché d'Adam jusqu'au dernier péché du dernier homme à la fin du monde. On dit alors que le sacrifice de notre Seigneur a été un sacrifice propitiatoire, parce qu'il nous a rendu Dieu de nouveau propice. Alors, la vie de la grâce, qui est une participation de la vie divine, et dont le péché d'Adam nous avait coupé, cette vie a été redonnée aux âmes. Si bien sûr elle était communiquée aux âmes de bonne volonté dans l'Ancien Testament, parce que le bon Dieu voulait les sauver et qu'on ne peut pas être sauvé sans la grâce, c'était en vue de la passion future de notre Seigneur et seulement grâce à elle. Mais depuis le Vendredi Saint, cette vie de la grâce coule sur le monde en plus grande abondance par les sacrements de l'Église qui sont sortis du cœur percé de Jésus. Véritable fleuve de vie qui coule sur le monde pour régénérer tous ceux qui s'en approchent, pour les faire vivre de la vraie vie, cette vie pour laquelle nous avons été créés et qui seule nous obtiendra le bonheur éternel. Sinon, c'est l'enfer éternel. Pauvre monde aujourd'hui qui a perdu de vue que le plus grand mal, le mal radical, c'est le péché mortel qui fait perdre la grâce sanctifiante et qui chasse Dieu de l'âme. Même les hommes d'Église ne le rappellent plus. La première conséquence pour notre âme de ce temps pascal dans lequel nous entrons aujourd'hui, ce doit être de vivre davantage de la grâce sanctifiante qu'il a coûté si cher à notre Seigneur de nous redonner. Dans la suite du carême, prenons de sérieuses résolutions par rapport à notre vie de prière, à notre vie sacramentelle, aux moyens sérieux à prendre pour rester en état de grâce. Ayant permis aux hommes par sa passion de sortir du péché en s'approchant des sacrements, notre Seigneur les délivrait en même temps de l'esclavage du démon. Ce dernier ne peut plus avoir de pouvoir que sur ceux qui le veulent bien. Il a perdu définitivement sa puissance sur tous les hommes. Et si aujourd'hui, évidemment, en voyant le péché qui envahit ce monde, en voyant le démon qui semble avoir pris possession du monde, on peut se dire, mais alors, où est la victoire sur le péché? Où est la victoire sur Satan? Eh bien, il n'y a pas de victoire du péché, il n'y a pas de victoire de Satan. Les hommes que Satan entraîne, il les entraîne dans sa défaite. Il n'y a que notre Seigneur et les chrétiens qui sont victorieux. Mais notre Seigneur a été beaucoup plus loin. De son cœur percé par la lance du soldat, sont sortis non seulement les sacrements qui nous donnent la vie divine, mais aussi l'Église qui nous donne ces mêmes sacrements, l'Église qui est le corps mystique du Christ. Nous étions les esclaves du démon, nous sommes maintenant, depuis notre baptême, les membres du Christ. Nous ne formons tous qu'un seul corps, dont le Christ est la tête, et qui fait vivre les membres comme la vigne fait vivre les sarments qui sont greffés sur elle. Et dans sa miséricorde, par une extraordinaire pédagogie divine, la Sainte Trinité fait de nous non seulement les membres du Christ, mais les enfants de Notre-Dame. Nous avons maintenant une mère qui prie pour nous, qui veille sur nous du haut du ciel, qui nous distribue en son temps et selon nos besoins les grâces qui nous sont nécessaires pour vivre notre vie d'enfant de Dieu et parvenir au bonheur éternel. On comprend alors que cette nuit, l'Église est fait chanter par le diacre « Ô Félix culpa !»« Ô bienheureuse faute d'Adam !» Non pas en elle-même, bien sûr, mais parce que Dieu ne l'a permise que pour déployer les trésors de sa miséricorde, pour restaurer l'homme dans un état supérieur à celui d'Adam, à celui de la première création. On dira oui, mais nous sommes aujourd'hui toujours soumis à la souffrance physique, à la maladie et finalement à la mort. Notre Seigneur, en détruisant le péché sur la croix, a détruit aussi la mort qui est le châtiment du péché. Mais cette destruction, qui est apparue au matin de Pâques par sa résurrection et au jour de l'Assomption pour sa Sainte Mère, cette destruction ne sera effective pour tous les hommes qu'au jugement dernier, quand tous ressusciteront à la trompette de l'ange, les uns pour le bonheur éternel, pour que leur corps, compagnon de leurs efforts, soit récompensé avec leur âme, tandis que pour les damnés, leur corps, complice de leurs vices, sera justement châtié pour l'éternité avec leur âme. Si la victoire sur la mort est ainsi retardée pour nous, c'est parce que le Christ, notre tête, étant entré dans la gloire en passant par la mort, il convenait qu'il en soit de même pour les membres que nous sommes. Et il y a ici un grand sacrement, le sacrement d'extrême onction qui configure l'âme à Jésus souffrant et mourant pour réparer nos péchés et entrer dans la gloire. Hier soir, nous avons suivi en procession dans la nuit le cierge pascal allumé, qui représente ce cierge pascal, notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alors que le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, parce qu'il vit dans le péché, parce qu'il s'est fait de nouveau l'esclave de Satan en rejetant notre Seigneur et qu'il se dirige alors vers la mort, marchons-nous vers le ciel, les yeux fixés sur Jésus ressuscité, sur Jésus victorieux. N'écoutons pas les sirènes de ce monde, ne nous séparons pas de notre Seigneur, c'est avec lui, en lui, par lui, que nous triompherons du péché et de Satan, en attendant de triompher de la mort au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.